last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
Journal du festival, épisode 5. Cette émission vous est proposée par Boris, Joris et Nico. C'est diffusé sur Radio PFM 99.9 à Arras et aussi cette année sur Radio Scarpe Sensé 94.1 à Vitry-en-Artois. Dans une dizaine de minutes, vous retrouverez l'agenda du jour de ce festival, le Arras Film Festival. Quelques rendez-vous à ne pas rater aujourd'hui, mais avant, c'est Boris qui nous propose un gros plan sur un film d'animation français et écolo, Tante Hilda.
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des millions de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Atilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre ainsi le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent. Mais la catastrophe n'est pas loin. C'est le pitch du dernier long-métrage des studios Folle Image, une fable écologique réalisée par Jacques-Rémy Girard et Benoît Chieux. Le film est prévu en sortie nationale le 12 février 2014, mais le public du Arras Film Festival a eu l'occasion de le découvrir en avant-première dans le cadre du Festival des Enfants lundi 11 novembre. C'est le compositeur Serge Bressé qui était chargé de présenter le film au public. C'est un habitué des studios Folle Image puisqu'il a composé pour eux de nombreuses bandes originales. Voici quelques extraits de l'entretien que j'ai eu avec lui où il évoque son travail sur Tante Hilda.
Vous êtes habitué un petit peu à ce genre de composition puisque vous travaillez avec le réalisateur Jacques-Rémy Girard depuis pas mal de temps maintenant.
40 ans.
Vous avez composé également la musique du film Une vie de chat, qui était plutôt une musique assez jazzy. Et là, ça change complètement d'ambiance. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez travaillé ?
Ah mais ça, c'est vraiment incroyable dans le cinéma d'animation et aussi pour tous les compositeurs, c'est qu'en fait, ça change tout le temps. Moi, je suis souple et modulaire, c'est-à-dire qu'on me demande de faire du symphonique, je fais du symphonique. On me demande de faire du rock, je fais du rock. Pour Tante Hilda, on m'avait demandé de faire jazzy, j'ai fait jazzy. Donc là, c'était un peu un mix de tout ça. Je réponds vraiment aux exigences des réalisateurs.
Alors, si on parle du film, il y a quand même 7 ans pour faire ce film, c'est un travail un peu de titan. Quelles sont les principales difficultés que toute l'équipe a rencontrées au cours de la réalisation de ce projet ?
D'abord les différentes phases, parce qu'on dit 7 ans, mais c'est à partir du moment où le réalisateur a décidé de faire ce film. Donc il y a quand même, sur les 7 ans, il y a 2 ans d'écriture, il y a 1 an pour essayer de trouver les financements, pour commencer à faire les premiers dessins. C'est très très long, très très long. Ensuite, il y a 2 à 3 ans de fabrication. Donc c'est évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a 230 personnes qui ont travaillé sur ce film. Il y a 200 animateurs et dessinateurs. C'est beaucoup. On est obligé d'être si long parce que 24 images par seconde, évidemment, image par image, c'est très, très, très difficile.
Alors, ce film, on l'a bien compris, c'est une sorte de pamphlet écologiste contre l'industrie chimique qui manipule génétiquement les plantes. Et parallèlement, de par son minimalisme et son style des plus épurés, puisque tous les dessins sont faits à la main, il résiste une nouvelle fois aussi devant les formes de technologie de dernier cri de l'animation.
Bien sûr, on est un studio en France à faire travailler d'ailleurs que des Français, alors que tous les autres films d'animation, même français, sont faits dans les pays de l'Est ou à Taïwan ou je ne sais pas trop où. Donc nous, c'est fait complètement en France et c'est très long, je redis, c'est 24 images par seconde, image par image, pour faire bouger un bras, tout est fait à la main, tout voilà. C'est vrai que c'est un travail un peu compliqué, oui.
Les personnages évoluent plutôt dans la caricature, le burlesque, voire la dérision. Est-ce que c'est ce qui permet aux idées les plus folles et les plus absurdes du scénario. Hein, je pense surtout au développement surdimensionné des plantes mutantes de parfaitement fonctionner, en fait.
C'est ce qui est intéressant à faire avec l'animation. Avec l'animation, on peut faire voler un homme, on peut faire une plante qui monte au ciel, on peut aller sur la lune. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça l'intérêt du film d'animation, c'est-à-dire qu'il faut pas essayer de copier un film normal, un film en prise de vue réelle. C'est on est dans un autre univers.
Alors c'est une fable écologique, mais en même temps on peut dire aussi que c'est plutôt un manifeste critique du monde dans lequel on vit, où le pouvoir corrompu, les politiciens impuissants, le capitalisme, l'appât du gain gangrène un peu la société.
Bah oui, c'est toujours un petit peu la tasse de thé des deux réalisateurs. Font toujours un petit peu. On fait pas un film bêtement pour détendre. Eux ont toujours fait des films pédagogiques en direction des enfants. Ma petite planète chérie, Le bonheur de la vie. Oui, effectivement, c'est un film qui se pose des questions et qui pose des questions aux autres. Qu'est-ce qu'on va devenir si les OGM continuent à progresser? Parce qu'il faut savoir qu'en France, malgré l'interdiction, je crois qu'il y a 170 000 hectares d'OGM qui sont encore en exercice.
Et vous pensez que c'est plus facile de faire passer ce genre de message dans l'animation plutôt que dans le cinéma à prise réelle ?
Oui, bien sûr, parce qu'en plus ça touche les enfants, donc je crois que les enfants sont plus sensibles que les adultes qui sont blindés, qui ont tout vu. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose de pédagogique à avoir avec nos enfants, et pourquoi pas leur dire que faire attention à ce qu'ils mangent, faire attention à ce qu'ils font, peut-être, oui.
Il y a une symbolique aussi qui revient souvent dans ce film, c'est l'abeille et le miel.
Bah, l'abeille, on le sait en ce moment, enfin dans notre, moi je viens du sud et les abeilles, il n'y en a quasiment plus. Le miel a doublé de prix et a triplé, donc on n'est pas loin du coup de notre fiction à nous. C'est que le miel a des sérieux problèmes, et c'est dû effectivement à tous les pesticides qui sont répandus dans les champs. Et les abeilles, enfin dans notre région, meurent, on a de la peine à se ravitailler en miel, donc on n'est pas loin. Et puis c'était un clin d'œil aussi à Josiane Balasco, qui joue le personnage de Dolores, qui s'empiffre de... Alors qu'elle détruit la nature, continue à s'empiffrer de miel jusqu'au moment où elle n'a plus de miel. Donc là, il se pose un problème.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Josiane Balasco, Bruno Locher, il y a également Sabine Azéma, François Morel. Donc, est-ce que vous les avez contactés avant, ou c'est après le film, une fois terminé, que vous avez dit, on va prendre ces voix-là, ou...
Nous, ce qu'on aime à Folimage, c'est de faire intervenir en premier, carrément en premier, tous les artistes, enfin les acteurs. Donc les acteurs vont mettre leur voix sur quasiment rien, puisque rien n'a été fait. Et c'est après les dessinateurs, en écoutant Josiane Balasco avec son franc-parler, qui vont commencer à dessiner. Donc effectivement, une fois après avoir entendu la voix de Josiane Balasco, il y a des choses qui ont commencé à changer tout de suite aussi. Et c'est pas facile pour ces acteurs-là, ils n'ont pas l'habitude c'est quasiment un travail de théâtre, puisqu'ils font leur dialogue sur rien. Ils ont en face le réalisateur qui fait la réplique. Mais par exemple, Sabine Azéma a eu beaucoup, beaucoup de peine à rentrer dans le personnage. Et à un moment donné, elle a dit à Georges Crémy, le réalisateur, « Bouge pas, je m'isole un peu. » Donc elle s'est isolée avec le texte. Et curieusement, elle s'est fait un chignon, comme Tantilda. Elle a les cheveux un peu en pétard. Elle a eu besoin de se mettre dans le personnage presque physiquement, en se déguisant. Et elle est revenue, elle dit « Ça y est, Jacques, j'ai trouvé mon personnage. »
Il y a aussi cette technique de dessin, vous tentez encore une nouvelle fois une nouvelle technique, celle du stylo à billes, c'est ça ?
Ah oui, il y a eu 4000 stylos à billes qui sont passés là. Alors le stylo à billes est intéressant parce que ça fait des traces plus importantes que le crayon à papier. Ça fait des définitions, ce que nous dans le jargon on appelle la trace, c'est-à-dire ce qui dessine par exemple un visage ou un corps. Il faut toujours passer une deuxième palette de noir pour bien le mettre en valeur. Donc là, oui, le problème évidemment, comme tout le monde a compris, c'est que le le style Wabi, ça ne s'efface pas.
Et puis les personnages aussi, et l'univers un peu... Alors moi j'ai pensé tout de suite à l'univers un peu de Franquin, avec notamment cette Tantilda qui ressemble étrangement à Mademoiselle Jeanne, l'une des amies on va dire de Gaston Lagaffe. Il y a aussi un peu dans l'ambiance, un peu du petit Nicolas également. On pense aussi un peu à Bretéché.
Ouais, c'est vrai. Bah, en plus, on ne sait pas trop. Je pense que ça se passe dans les années 80, 70, 80, 90. On ne sait pas trop. Effectivement, il y a un côté un peu hippie dans l'habillement des personnages. Oui, c'est ça. Il y a un côté truculent. C'est toujours pareil. On peut se permettre plein de choses avec le dessin animé et en rajouter des caisses pour faire rire ou autre chose, oui.
Vous pourrez bientôt entendre l'intégralité de l'interview de Serge Bresset, compositeur de Tante Hilda, prochainement sur le 99.9, un film présenté dans le cadre du Festival des enfants du Arras Film Festival.
À l'attaque !
Danger, je dis danger, je me sens à l'étroit, étriqué, traqué, aucun moyen d'esquiver. C'est viscéral, cette prison mentale qui est mon quotidien. Chaque jour, je reviens loin, impossible d'y mettre un frein, fatalement tiré vers le bas pour ma parano.
Alors, c'est pas toujours les meilleurs moments du festival, mais le Arras Film Festival accueille chaque année des stars, des gens plus ou moins connus. Et donc là, Boris, cette année, il y avait un mec d'une quarantaine d'années qui a été rappeur dans un certain groupe de rap français à base de pop.
Ouais, et puis d'ailleurs qui s'est produit avec ce groupe au Pharos d'Arras, il fut un temps.
J'y étais.
Et oui, voilà, bah oui, Joe Star, avec le nom qui sonne pile poil comme il a fait son entrée hier au village du festival. Alors, petite anecdote, on va dire, sans trop vouloir jeter de l'huile sur le feu. Je sortais d'une projection du Géant Égoïste où j'avais pris déjà une bonne claque, et puis quand je suis rentré dans le fest et dans le village, j'ai senti une tension qui s'était installée au sein du village. Je me demandais ce qui se passait. Je pensais, quelqu'un fait un malaise, il y a quelque chose. Il y avait des cordons de sécurité, il y avait du monde qui attendait dans un coin. Et puis, j'ai aperçu, dans le fond, entre les bureaux de presse, etc., Joe Star en lunettes de soleil et tête baissée. Donc voilà, Joe Star était arrivé et apparemment, il a fait un petit peu son cinéma. Voilà.
Alors, il est dans un film, Une autre vie, avec Virginie Ledoyen, et c'est réalisé par Emmanuel Mouret. Toi, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ben voilà, donc du coup, moi, j'avais pas encore vu de film d'Emmanuel Mouret. On m'avait dit, tu vas voir, c'est quelque chose de très bien écrit, très scénarisé, presque théâtral. Et hélas, j'ai bien rigolé. Parce que c'est vraiment, après c'est un parti pris, mais c'est vraiment tout le cinéma français que je n'aime pas. Alors il a le mérite d'exister ce film, mais en gros l'histoire d'un électricien qui est Joe Star, qui a pour compagne Virginie Ledoyen, qui elle travaille dans un magasin de chaussures. Et cet électricien, donc Joe Star, qui tombe amoureux d'une pianiste classique, jouée par Jasmine Trinca. Et puis ça ne marche pas du tout, des dialogues complètement insipides. On dirait presque que le réalisateur veut que ses acteurs jouent mal, et ils jouent mal, il faut le dire. Enfin, pour moi, c'est tout ce que je n'aime pas dans le cinéma français, donc je pense que ce film est, en mon sens, un flop.
Toi qui as vu pas mal de films déjà pendant ce festival, est-ce que tu as un ou deux films à nous conseiller ?
Il y en a plusieurs quand même, il y a quand même un bon cru cette année, ce festival. Moi, je vous conseille franchement d'aller voir Le Géant Égoïste, film anglais qui est classé dans les découvertes européennes par une jeune réalisatrice anglaise, qui s'appelle Clio Barnard. C'est un premier long métrage avec deux comédiens qui ont à peine 12 ans et qui sont absolument merveilleux. Alors évidemment, c'est un film qui est très très sombre, qui se passe dans les bas-fonds des banlieues anglaises où c'est vraiment très noir. Il n'y a pas de musique dans ce film. Deux gamins, un cheval, et le film est magnifique. Et puis là, je sors de Brasserie Romantique, le film flamand, qui est réalisé par Joël Vandenbroek. Et c'est une pure merveille. Là, pour le coup, les dialogues sont ciselés. On rigole du début jusqu'à la fin. C'est un humour complètement décalé. Et on passe un super moment dans cette brasserie, puisque c'est un huis clos, le soir de la Saint-Valentin, où plein de gens viennent dîner. Et il se passe plein de choses différentes. Et il faut absolument aller le voir. Bon, alors, il y en a plein d'autres, mais là, si je veux donner vraiment mes deux coups de cœur, là, sur le coup, eh ben, c'est ceux-là.
On termine ce journal du festival avec quelques-uns des nombreux rendez-vous proposés aujourd'hui, jeudi 14 novembre. On commence avec toi, Joris.
Et oui, Nico, séance avec les invités, Tonnerre, un film français de Guillaume Braque avec Vincent Macagne, Solène Rigaud ou encore Bernard Ménès. Une projection à 19h en présence de l'équipe du film. Et en soirée, vous pourrez découvrir le film en avant-première, donc Avant l'hiver, un drame franco-luxembourgeois avec Daniel Auteuil, Christine Scott Thomas et Richard Berry. Rencontre avec le cinéaste à 21h30.
Aujourd'hui, c'est aussi le début de la compétition européenne. Le premier film est à 16h30. C'est un film croate tragicomique qui s'appelle The Priest's Children. À 19h, un film norvégien qui s'appelle Chasing the Wind. Il y aura autour de ce film une rencontre avec le réalisateur, allez, je me lance, c'est Rune Denstad Langlo. Et puis à 21h30, toujours dans cette compétition européenne, un film toujours scandinave, mais cette fois-ci finlandais, ça s'appelle The Disciple, et là il y aura une rencontre avec le directeur de la photographie du film.
Coup de cœur pour le film Où va la nuit de Martin Provost, cinéaste de Séraphine, donc c'est à découvrir ce soir à 19h au Ciné Movida, allez-y, c'est super.
Et pour terminer, un rendez-vous musical toute cette semaine au village du festival à partir de 23h. Donc après toutes les séances, il y a un concert qui est organisé. Et ce soir, c'est un groupe pop qui s'appelle My Disco Jacket. C'est en entrée libre. C'est la fin de ce journal du festival. C'est diffusé sur Radio PFM 99.9 en seconde partie d'Info 30, donc à 7h45, midi 45 et 18h15. Également sur le www.radiopfm.com et aussi sur Radio Scarp Sensé. Tu connais les horaires, Joris ?
Bah oui, midi 30 et 17h. T'as vu, j'ai tout noté.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode et ce sera à toi, Joris, aux commandes alors.
Oui, voilà, pour des reportages, des chroniques et puis des interviews. Donc c'est demain à vivre donc sur les ondes du 94.1 et 99.9.